Les salles du français, énième édition, enregistrée à CJMD le 15 septembre 2021. Guillaume Raté-Côté à votre service pour une autre discussion sur notre belle langue par le prisme de son histoire. Aujourd'hui, Jacques Ouellette, qui enseigne le cours Histoire du français à l'Université Laval pour le département des langues, linguistiques et traductions, entre autres. Et là, pour ça, M. Ouellette, merci d'être avec nous aujourd'hui.
Il n'y a pas de quoi, monsieur, à tes côtés.
Parlons d'histoire du français, mais commençons par quelqu'un qui travaille à la mettre en lumière, vous-même, un peu d'histoire de votre parcours. Ça vient d'où un intérêt si précis, si particulier pour cette langue? Et peut-être une petite description du parcours là, jusqu'à votre présence aujourd'hui à la Faculté des sciences sociales de l'Université Laval.
Oui, la Faculté des lettres.
Pardon? Ah bon?
Et au département de langue, linguistique et traduction.
OK.
Alors, merci. Écoutez, comme je suis linguiste, je travaille dans ce département depuis plusieurs dizaines d'années maintenant. Okay. Et je travaille en linguistique, mais mon intérêt principal, c'est la langue française, c'est l'analyse de la langue française et l'histoire de la langue française, si vous voulez.
Voilà.
Alors, ça se résume en gros à ça. C'est un objet d'étude que je considère à tous les jours.
D'accord, mais pour la genèse, l'idée, l'étincelle de départ, est-ce que vous pouvez remonter jusqu'à la décision d'étudier là-dedans pour nous? Comment on décide d'étudier spécifiquement cette langue-là? Est-ce que c'est par nationalisme? Est-ce que c'est par simplement des capacités, des connaissances là-dessus qui étaient déjà présentes et qu'on a voulu pousser plus loin? Comment ça s'est produit,
oui,
le choix?
Écoutez, au départ, j'étais orienté, si vous voulez, pour mes études universitaires du côté d'études littéraires.
Okay.
Et okay. Puis, on avait dans la formation, on avait des cours en linguistique. Et c'est à partir de là que je me suis intéressé plus particulièrement à l'étude de la langue, plutôt qu'à l'étude de la littérature, que j'appréciais beaucoup, mais professionnellement, je me suis penché sur l'étude de la langue essentiellement.
D'accord. On comprend. Et j'ai, moi, fait un petit tour sur ce que j'ai pu trouver sur votre parcours, et je comprenais qu'il y a eu aussi un intérêt pour la sémantique conceptuel. On pourrait faire une petite parenthèse avant de rentrer vraiment dans l'histoire du français sur ce concept-là de sémantique conceptuelle. On décrirait ça comment en quelques mots en soi?
Vous avez écrit là-dessus? Si vous voulez, effectivement, j'ai même publié un ouvrage là-dessus en 2014. Mais ce que j'appelle la sémantique conceptuelle, c'est le fait que une langue, c'est un système de conceptualisation. Alors, ça sert à former des idées, si vous voulez, pour parler de la réalité. Alors, l'aspect sémantique, ben, c'est l'aspect de formation des concepts. Alors, ce qu'on appelle des concepts, hein, quand vous avez des mots, un mot, c'est toujours le signe d'un concept. Alors, l'étude des concepts, c'est ce que j'appelle la sémantique conceptuelle. C'est pas l'aspect sémiologique, l'aspect du signe linguistique, l'aspect de la prononciation, hein, c'est l'aspect du sens qui est véhiculé par les mots, essentiellement, la conceptualisation linguistique, si vous voulez.
Et donc, d'une langue à l'autre, quelque chose qui peut pointer, un mot qui peut pointer une réalité égale, et c'est pas toujours exactement non plus un concept parfaitement calqué, si je comprends bien en vous écoutant.
Ah oui, autrement dit, d'une langue à l'autre, on peut parler des mêmes choses, des mêmes objets, mais on n'a pas les mêmes concepts pour en parler parce que dans une langue donnée, on a un type de concepts donnés qui sont propres à cette langue-là, et en passant d'une langue à l'autre, on a un système de concepts différents. Autrement dit, on pense pas tout à fait de la même façon d'une langue à l'autre, si vous voulez.
Absolument. Très intéressant. On peut se procurer ça aux presses de l'Université Laval, j'imagine, votre ouvrage sur la sémantique conceptuelle.
Ah oui, ça se trouve aux presses. Ça s'appelle justement « Sémantique conceptuelle du français ». Alors, c'est l'étude du système de formation des concepts en français.
Intéressant. Quand même, une parenthèse qu'on referme et on se lance dans l'histoire du français, mais par le prisme, pour débuter, du cours que vous enseignez cette session-ci. Pensons un peu cours d'introduction, là, ça s'est donné il y a peu de temps, j'imagine, d'ailleurs, ce premier cours-là.
Je suis en train de le donner, si vous voulez savoir.
Ah bon? Alors, pour résumer ce à quoi ont droit les étudiants pour le cours Histoire du français, qui a quoi, une quinzaine de représentations avec un examen à la fin, peut-être un travail de mi-session. Mais outre ça,
oui.
Les chapitres, comment on divise un sujet avec de telles proportions en termes de possibilités?
Bon, voilà, comme vous dites, c'est une initiation en histoire de la langue française. Il y a une quinzaine de séances avec un examen à chacune des étapes. Il y a trois séries d'examens. Okay. Puis, il y a un travail de session aussi qui porte sur l'histoire de la langue française.
D'accord.
Alors, ça met en cause deux aspects de la langue. Bon, on appelle ça l'histoire externe, hein, les événements historiques qui ont mené à la formation de la langue française, à son expansion, si vous voulez, et au fait qu'elle s'est répandue, par exemple, au 15e siècle, dans certaines colonies comme le Canada ou le Québec, si vous voulez.
Okay.
Donc ça, il y a on fait de l'histoire, enfin, les événements historiques qui ont influencé, si vous voulez, l'existence puis le développement de la langue française. On a un autre aspect qui est qu'on appelle histoire interne,
okay,
qui est l'évolution de la langue elle-même, c'est-à-dire du fait que au départ, si on remonte jusqu'au 10e siècle ou 8e siècle, si vous voulez, on parlait latin,
okay,
hein, on parlait un latin populaire, et puis c'est l'évolution de ce latin populaire-là graduellement depuis un peu plus d'un millénaire, si vous voulez, qui a abouti au français qu'on parle aujourd'hui.
D'accord, on va se gâter dans quelques instants et faire un peu cet exercice-là en bien abrégé. Malheureusement, on a le temps qu'on a, mais je comprends que c'est l'approche scientifique, historique, de puiser dans les départements d'histoire et appliquer à la langue française ce cours-là au bout de la ligne. Histoire du français.
Oui. Enfin, remarquez que dans l'histoire de la langue française, on considère uniquement les événements historiques qui ont eu une incidence sur l'évolution de la langue, si vous voulez.
D'accord. Et pour l'histoire en soi, on vient de mentionner certains éléments, mais vraiment la genèse, là, avant les siècles de 8e, 9e siècle, il y avait des Celtes, il y avait des Francs, il y avait eu le latin aussi depuis des centaines d'années. Vraiment, l'étincelle, encore une fois, le début de cette langue-là, est-ce que... On peut remonter encore plus loin que ça ou autant
oui,
de...
Écoutez, on peut remonter jusqu'aux conquêtes de César, si vous voulez.
Oui.
C'était avant, c'était au tout début de notre ère, si vous voulez.
Exact.
Mais, bon, il y a eu l'Empire romain qui a conquis toute la Gaule, enfin, c'est ce qui était la France de l'époque et un peu plus, ça incluait la Belgique, l'Allemagne, etc. Alors, ça a été conquis par les Romains et graduellement, les peuples qui habitaient ces régions-là se sont mis à parler latin parce que pour traiter avec les Romains, ça allait mieux de parler latin et c'était une langue plus prestigieuse que celle qu'ils parlaient. Ouais. Alors, c'est la langue qu'ils ont adoptée.
Mais l'organisation
romaine, la centralisation, et puis il y avait des lois qui fonctionnaient très bien, jusque vers le 476, où l'Empire est tombé, parce que il y avait des populations, si vous voulez, qui venaient du nord de l'Europe, etc., et qui ont envahi l'Empire romain,
exact,
et qui ont fait tomber le gouvernement, finalement.
Puis ça avait fait une guerre.
On parlait des langues germaniques, effectivement.
C'est ça,
qui
ça
ont
avait
une
fait...
influence considérable sur le latin qu'on parlait à l'époque.
Ah, d'accord. Et c'est ça que je voulais mettre en exergue, montrer que. Il y a eu, oui, beaucoup d'influence latine depuis Rome vers l'extérieur, mais également pendant cet exercice-là, mais il y a eu aussi de l'acquisition, le latin en a pris de ces cultures nouvelles, externes ou conquises-là, et ça a pu commencer même avec les Francs ou les Gaulois, qui c'était plus celtique à l'époque. Est-ce que ça, on peut s'imaginer que dès... l'époque de Jules César, il y avait un échange entre les Francis, je pense, qu'on a pu appeler aussi. Là,
c'était les Gaulois à l'époque qui occupaient la France actuelle, si vous voulez. Ouais. Et c'est les Gaulois qui ont été conquis par César. Mais les gens qui ont envahi par la suite, c'était des gens de langue germanique, hein, qui parlaient des langues germaniques. Et c'est ces gens-là qui ont eu le plus d'influence sur l'évolution du français. Beaucoup plus, parce que le latin a évolué aussi pour donner, comme vous savez, l'espagnol, puis l'italien, ben oui. Et puis le roumain. Mais la langue qui s'est distinguée le plus du latin, c'est le français, parce que l'influence germanique a été plus considérable sur le français.
Est-ce que je qualifie le français de cette époque-là, en tout cas, d'espèce de zone tampon entre l'allemand et le latin? Je suis très loin de la réalité.
Ben, c'est un peu ce qui est arrivé. Si vous voulez le voir comme ça, le français est devenu une langue tampon entre le latin et puis l'allemand. Le fond essentiel est latin, mais l'influence germanique est considérable.
Et aussi, quand on voit des similarités avec l'anglais, qui est une langue plus germanique, est-ce que c'est justement par cette proximité avec l'allemand-là à quoi on doit cette réalité-là? De proximité avec l'anglais, du français?
C'est-à-dire que l'anglais est une langue germanique qui est restée une langue germanique, qui a été influencée beaucoup par le français, historiquement, parce que, je ne sais pas si vous vous rappelez, en 1066, il y a Guillaume le Conquérant qui a conquis l'Angleterre, et l'Angleterre a été administrée en français pendant 3 siècles à peu près, à cette époque-là. C'est pour ça qu'on parle encore français à la cour d'Angleterre. Mais en Angleterre, bien sûr, c'est la langue germanique, la langue saxonne qui a dominé, finalement.
Voilà. Et il y a eu des échanges aussi de rois, là, des Anglais qui ont régné sur la France. Il y a ce mélange-là. Mais on comprend que c'est plus profond et que le côté saxon, avec cette proximité des Français, des Allemands à l'époque romaine, ça a joué beaucoup. C'est très intéressant, je pense, que pas beaucoup de nos auditeurs qui étaient au courant de cette réalité-là. C'est ce que je voulais dégager, justement. Et quand on parle du français de Guillaume le Conquérant, il y a 1000 ans de ça, parlons de la réalité de ce à quoi ça ressemblait, parce que c'est là que ça s'est plus cristallisé, ou un petit peu avant, là, mais ça demeure que c'est pas le français de 2021, assez loin de là quand même.
Ah, mais c'était assez loin de là. Mais c'était du français. Je veux dire, c'était le français de l'époque, hein, qui était sensiblement différent. C'est pratiquement de l'ancien français qu'on avait à cette époque-là, ce qu'on appelle l'ancien français, qui est pas lisible par une personne qui parle français aujourd'hui, à moins d'avoir une éducation dans le domaine, parce que l'ancien français est considérablement différent du français moderne, si vous voulez.
Et ça se termine quand, l'ancien français?
Oh, l'ancien français, ça se termine à peu près vers le 14e siècle, si vous voulez.
Okay.
Hein? On a ensuite le moyen français, le français classique, et puis le français moderne, celui qu'on connaît encore très bien aujourd'hui.
D'accord. On revient à l'ancien français et les vrais débuts de cette langue-là. Est-ce qu'il y avait une entité qui était plus susceptible qu'une autre de normer la chose, parce que sinon ça peut donner des très grandes divergences au point où peut-être on peut même plus appeler ça une langue commune. C'était la royauté peut-être qui jouait ce rôle-là, justement?
Oui, la royauté a joué ce rôle-là. Écoutez, historiquement, à une certaine époque, à l'époque du 10e siècle ou quelque chose comme ça, la France était un peu séparée en deux. Alors, il y avait des gens qui parlaient dans le sud encore ce qu'on appelle la langue d'oc, qui était une langue qui était encore très proche du latin. Et puis, il y avait les gens de la langue d'Oïl, dans le nord, qui parlaient déjà un français qui était très différent, qui avait subi, lui, l'influence germanique. Alors, on avait, à l'époque, deux sortes de dialectes en France, si vous voulez. D'accord. Les dialectes d'ancien français, puis les dialectes du français de Languedoc, du français provençal, si vous voulez, dans le sud. Mais, historiquement, effectivement, c'est les rois de France qui géraient la Gaule à l'époque. Ben, c'était des rois du Nord, finalement, qui ont prédominé et qui ont conquis le Sud et qui ont imposé, finalement, dans l'administration dans le Sud, la langue du Nord. Et c'est la langue du Nord qui a prédominé, finalement, en France et puis chez nous, si vous voulez.
Puis c'était à cause d'une domination temporelle, carrément, de du nord sur le sud, simplement, que ça, ça s'est
oui,
produit comme
ben,
ça.
Enfin, il y a toutes sortes d'événements historiques qui sont arrivés. Mmh. Au départ, il y avait des royaumes qui étaient plutôt restreints, mais il y a des rois, les rois francs en particulier, ouais, qui ont recréé, si vous voulez, une sorte d'empire qui s'est étendu graduellement jusqu'au 15e siècle, au 16e siècle, si vous voulez, et qui a fait que finalement, il y a un dialecte qui a prédominé, si vous voulez, qui était celui qui était parlé, bien sûr, par la cour ou le roi de France, qui faisait l'administration, donc qui était en situation d'imposer, au moins dans l'administration, d'imposer son dialecte, si vous voulez, qui est devenu la langue française.
Le premier moment où ça a été délégué, est-ce que je me trompe de dire que c'est avec le cardinal de Richelieu quand il y a eu la création de l'Académie française? Parce qu'aujourd'hui, en tout cas...
C'est au 17e siècle que vous avez eu la création de l'Académie française.
Exact.
Mais déjà, au 6 mois...
Oups! Êtes-vous là? On a eu un petit bug.
Oui, j'ai eu un problème. Je ne sais pas qu'est-ce qui est intervenu, là.
Ah, tant qu'on est encore ensemble, ça va. Pas de problème. C'est pas plus grave que ça. On était au 18e siècle. Au 17e, non, même. Oui. C'est Louis XIII.
Oui. La création de l'Académie française, c'est au 17e siècle, déjà. Mm-hmm. Mais déjà, à partir au 16e siècle, en 1539, il y avait un édit royal qui a imposé l'usage du français dans l'administration. Avant cette époque-là, on utilisait le latin.
Oui.
Mais à partir de cet édit royal-là, on a imposé le français dans l'administration, de telle sorte que les gens puissent comprendre, si vous voulez, les lois et les choses comme ça. Et puis, on a graduellement, ça s'est imposé à toute la France, si vous voulez.
Sur le tard, quand même. Mais parallèlement, le latin, à votre connaissance, c'est une langue morte absolument complètement aujourd'hui. Même l'Église ne l'utilise plus, mais...
Ça, oh, l'Église l'utilise encore, faites bien attention.
Bon, en tout cas, pas dans les messes, là, pas depuis, j'oublie le terme, Vatican II, je pense, mais...
Oui, oui, dans l'usage,
Vatican,
et peut-être. Puis dans les cérémonies, vous avez raison. Mm-hmm. Cependant, si vous allez à Rome, où il faut une langue neutre, et parce qu'il y a des gens qui viennent de partout dans le monde, on utilise encore le latin dans certaines cérémonies.
Eh bien, ah bon? Mais comment on explique que le français, si tard, se soit imposé dans l'État, pourtant avec une existence de plusieurs siècles? On parle de cet édit-là du roi au 16e siècle qui rendait les communications obligatoirement en français. C'est très tard.
Oui. C'est à partir de ce moment-là que le français a remplacé le latin dans l'administration.
Mm-hmm. Comment ça se fait que c'est pas survenu plus tôt?
Vous savez, le problème, et ça, c'est un problème qui date de quelques siècles, là, c'est que le latin, hein, qui était une langue de culture et qui véhiculait la science et qui véhiculait la culture, alors le latin avait un prestige considérable. Alors, les gens qui allaient à l'école, ils allaient à l'école pour apprendre le latin, pas pour apprendre leur langue maternelle. Alors, pendant quelques siècles, jusqu'au 16e siècle, effectivement, le latin est encore utilisé dans l'administration, pour les cérémonies religieuses, et même en science, les savants, avant cette époque-là, ou jusqu'au 17e siècle, les savants en Europe, ils fonctionnaient en latin, ils communiquaient entre eux en latin, on utilisait le latin. C'est uniquement à partir du 17e siècle aussi que les savants ont commencé à fonctionner dans leur langue maternelle, plutôt que de fonctionner en latin. Mais le prestige du latin l'a maintenu dans les domaines de la science, puis de la religion, et puis de l'administration, dans le domaine légal, jusqu'au 16e siècle et 17e siècle.
Avant ça, quand on s'éduquait, ça passait par apprendre le latin. C'était pas
à l'école,
avec notre langue maternelle.
On apprenait le latin. On disait qu'on apprenait la grammaire, mais c'était la grammaire du latin, à cette époque-là.
Très intéressant. Encore, on remonte le temps, on n'a pas le choix, le temps justement ici nous est compté, et on va jusqu'à la colonisation de l'Afrique, aujourd'hui est le principal bassin de croissance du nombre de locuteurs du français, donc qui est très important pour l'avenir de la langue. Est-ce que vous abordez dans le cours la façon, le rythme dont la langue française s'est immiscée en Afrique? C'est sûr que c'est venu avec des colonisations, mais c'est pas en claquant des doigts que ça s'est répandu quand même dans le peuple africain?
Oui, il y a eu plusieurs périodes de colonisation, dont la période de colonisation du Canada ou du Québec, si vous voulez, historiquement, à l'époque de Jacques Cartier puis Champlain. Mmh. Mais en Afrique, c'est venu plus tard. Mais effectivement, il y a eu une colonisation importante qui fait qu'il y a plusieurs populations africaines qui connaissent le français et qui parlent français et qui s'éduquent en français, à part leur langue maternelle. Pour eux, c'est quand même une langue seconde, mais les Africains parlent très bien français, ceux qui parlent français d'habitude, oui.
Souvent à certaines opinions, même mieux que ce qui se passe au Québec, on va y arriver. Mais
il y a la question de la norme là, et du fait qu'on parle bien ou mal. Mais ça, c'est subjectif assez souvent, comprenez-vous.
Pas de doute là-dessus. Même avec une académie française bien catégorique à bien des opinions, à bien des égards, il y a des opinions qui peuvent rapidement jauger la chose avec, exemple, une acceptation de week-end comme étant correct pour le parler français, mais bon matin serait proscrit parce qu'il y a un anglicisme. Mais continuerons.
Oui, des fois, écoutez, week-end, c'est utilisé en France essentiellement. Ici, on parle de fin de semaine. Enfin, moi, j'utilise fin de semaine régulièrement. Moi c'est aussi ce qu'on faisait dans mon milieu.
Moi aussi.
Ben, c'est pas... vous savez, toutes les langues empruntent des termes à un moment ou l'autre. L'anglais a emprunté énormément au français.
D'accord.
Tout le vocabulaire savant anglais a été emprunté au français, des fois à travers le latin aussi. Alors, toutes les langues empruntent à d'autres langues et ça, on n'échappe pas à ça. Il n'y a pas de langue absolument pure, si vous voulez, de ce point de vue.
Et ça enlève des complexes à entendre, content qu'on le mentionne dans notre
entretien. Oui, il ne faut pas être complexé, effectivement, ça, je suis d'accord avec vous là-dessus.
Et bon, on a parlé de l'Afrique, dans la ligne du temps, on fait un peu des allers-retours, mais on est vers la finale pour se concentrer encore sur l'histoire du français, avec le peu de temps qu'on a. La dernière période, vous nous avez séparé ça en quatre périodes tout à l'heure, l'existence du français et...
on distingue l'ancien français, le moyen français, le français classique, puis le français moderne, oui.
Le classique, est-ce que je me trompe? Tu sais, j'écoute, ne serait-ce que même René Lévesque quand il était à Radio-Canada, mais bon, un peu avant ça, c'était, au Québec en tout cas, très différent, dans les médias au minimum, mais même, je pense, avec le parler commun... de ce qui a cours aujourd'hui. Est-ce que c'est là, la fin des années 50, la terminaison de cette époque-là avant le moderne?
Le français classique, c'est à l'époque du 17e siècle. C'est autour du 17e siècle. Bon, vous pouvez inclure le 18e, mais à partir du 18e, ce qu'on appelle le français moderne, c'est un français qui est encore très bien compréhensible aujourd'hui, si vous voulez.
Okay.
Bon, le vocabulaire a vieilli un peu des fois, puis ça l'a évolué, parce que dès qu'il se développe un domaine scientifique quelconque ou un domaine pratique quelconque, bien, on invente le vocabulaire qui est nécessaire pour en parler. Bon, alors ça évolue beaucoup du point de vue du vocabulaire, mais essentiellement, on peut comprendre le français même jusqu'au 17e siècle. Un francophone d'aujourd'hui, il n'y a pas de problème pour comprendre le français écrit de l'époque, si vous voulez. Enfin, des fois, ça demande un peu d'éducation parce que ça l'a vieilli, bien sûr, c'est daté. Mais c'est compréhensible par des gens d'aujourd'hui, si vous voulez.
On pourrait donner l'exemple, François... C'est français.
Historiquement, oui.
Avec quelques explications comme ça, on peut se permettre de lire des textes d'un certain
nombre. Ça, c'est l'évolution de la prononciation. Il y avait la langue françoise, et puis c'est devenu la langue française, bien sûr. Oui.
Section avec peut-être plus d'opinions pour qu'on termine la chose en beauté, mais sur la facette actuelle de ce qui se produit pour la langue française... Pas juste au Québec, hors Québec, dans le monde, votre inquiétude sur l'existence de la langue française, à quel point c'est saillant à votre esprit. On passera au Québec particulièrement ensuite, mais 300 millions de locuteurs actuellement, puis justement une croissance avec l'Afrique, avez-vous peur qu'à moyen terme, on perde cette atout-là pour l'humanité?
Enfin, si vous posez le problème à l'échelle de la planète, avec le nombre de locuteurs qu'on a, je ne suis pas inquiet d'une certaine manière pour l'avenir de la langue française. D'autant plus que la langue française, elle a quand même un prestige considérable parce que c'est une langue de culture et que la culture française est reconnue. Bon, dans un milieu comme le nôtre, des fois, là, il y a concurrence, si vous voulez, avec l'anglais. Ouais. Et puis, il faut défendre notre point de vue si on veut continuer à parler la langue. C'est normal qu'on défende l'usage de la langue dans notre milieu, si vous voulez.
D'accord. Alors,
pour qu'on puisse fonctionner normalement en français et pas être réduit à être obligé de parler une autre langue pour différentes raisons, si vous voulez.
Pour le Québec, j'entends que vous avez évidemment plus d'inquiétude et je vous demanderais de pouvoir peut-être nous présenter ce que vous, quelqu'un comme vous qui a tellement la langue à cœur, qui enseigne le cours sur son histoire, vous prôneriez comme priorité à mettre en place ou en tout cas à continuer à avoir comme mesure pour qu'on préserve notre langue au Québec le plus longtemps possible.
Oui. Ben, écoutez, je regarde une chose qui me rassure d'une certaine manière, c'est qu'on a quand même un gouvernement qui a à cœur de défendre l'usage de la langue française, ce qui est absolument normal, je trouve. Et puis, c'est une orientation, je pense, qui est la bonne. Hein? Et si on veut que le français continue de se parler au Canada, puis d'être l'une des langues officielles, ben il faut que les gens, non seulement au Québec, mais aussi au Nouveau-Brunswick et d'autres minorités, qui puissent continuer à fonctionner en français. Hein? Autrement dit, d'une certaine façon, les anglophones au Québec fonctionnent très bien en anglais. Ouais. Ils ont l'espace voulu pour ça. Ben, on désire que les francophones à l'extérieur du Québec aient le même espace et la même reconnaissance pour être capables de fonctionner en français. Eux aussi, voyez-vous.
Intéressant. Et j'ai pris un article pas plus tard que ce matin sur l'enseignement de l'anglais au primaire. On parlait de cinquième année, sixième année, mais intensif, parce que ça s'enseigne au primaire depuis un bout de temps. Comment vous voyez la mixité là, dans l'enseignement des deux langues officielles du Canada au Québec? Est-ce que ça vous génère des craintes? Est-ce qu'il faut faire attention à peut-être pas trop enseigner d'anglais à votre vision?
Oh non, je veux dire, ça, c'est pas mon point de vue. C'est une bonne chose que les jeunes apprennent l'anglais, des fois dès le primaire. Une langue, ça s'apprend très bien. Ça s'apprend très bien quand on est plus jeune. À mesure qu'on vieillit, c'est plus difficile parce qu'on a des habitudes bien ancrées. Mais que les gens parlent une langue, ou même deux langues, ou même trois langues, c'est une excellente chose pour les échanges et pour la compréhension du fonctionnement du monde, si vous voulez. Alors, c'est pas le fait qu'on enseigne l'anglais à l'école qui va faire que le français va disparaître. C'est que si on peut pas fonctionner normalement en français dans notre société, ça, c'est dangereux pour l'avenir du français. Mais qu'on apprenne l'anglais à l'école, de mon point de vue, ça pose pas de problème en soi.
Seriez-vous favorable à une décomplexification de l'orthographe, de la grammaire du français, en terminant? Parce que,
vous avez un problème qui existe depuis longtemps en français et qui se perpétue. Alors, vous savez, il y a trop de spécialistes dans ce domaine-là. Tout le monde veut dire son mot et ça fait qu'on s'entend pas sur la modification de l'orthographe. Il y a des spécialistes qui proposent des choses, mais qui sont pas adoptées parce que des gens s'opposent à ça. Alors, on a beaucoup de difficultés, si vous voulez, à faire un consensus là-dessus. Ça, c'est un problème de la langue française et aussi de l'histoire de la langue française. Mais l'État est là et normalement, effectivement, on pourrait peut-être simplifier l'orthographe de manière à ce que ce soit plus facilement accessible à tout le monde. Ça prend du temps à prendre l'orthographe du français parce que c'est compliqué.
Ça détourne.
Il y a des choses qui ne répondent pas à des règles, qui sont maintenues uniquement parce qu'il y a des grammairiens qui ont décidé que ça devait se faire comme ça, sans raison
arbitrairement. Arbitrairement.
Alors, c'est compliqué et ça devrait être simplifié dans une certaine mesure. Okay. Mais faire un consensus là-dessus, c'est un problème.
L'Académie française même est pas capable, après des siècles d'existence. On a plus des siècles, on a quelques secondes ensemble pour terminer. Jacques Ouellette, grand merci. Je pense bien qu'on a fait réfléchir nos auditeurs, on leur a appris des choses. Et si on veut pousser davantage ces connaissances-là, on peut s'inscrire au cours Histoire de la langue française. Je pense que pour la session.
Plaisir d'accueillir ceux qui sont intéressés.
La session actuelle est trop tard, mais ça se donne à l'hiver et à l'automne, je crois bien.
Une fois par année.
Une fois par année.
Normalement. Et actuellement, c'est à l'automne. Ça s'est déjà donné deux fois, mais actuellement, c'est une fois à l'automne.
Bon, on invite les gens à aller faire un tour sur le site de l'Université Laval. Et encore une fois, pour terminer, un grand merci, Jacques Ouellette. Ça a été un plaisir.
C'est moi qui vous remercie, monsieur Ratécoté.
À la prochaine. Merci beaucoup.
Au revoir.